soir avec des confrères journalistes. Nous analysons les grands pays qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir la signature de l'arrangement particulier. Hier jeudi 27 avril 2017, au Palais du Peuple à Kinshasa, en présence des présidents des deux chambres du Parlement en tant que co-représentants du chef de l'État. Dans notre deuxième et dernier terme, nous dresserons les bilans du processus de démocratisation en RDC 27 ans après le discours du maréchal Mobutu du 24 avril 1990 qui ouvrait la voie au multipartisme. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Claude Molichaud, journaliste à la RTNC et coordonnateur des communicologues du troisième millénaire. Claude Molichaud, bonsoir.
Bonsoir, madame Sylvie.
Peter Tseni, journaliste et directeur général du Vrai Journal. Peter Tseni, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Et Jeff Mwingamb, éditeur du journal fédéral Paris-Soir Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Jeff Mwingamb, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Berry Louchaka.
Bonsoir Kelly et bonsoir à tous. La presse de ce vendredi s'est largement concentrée sur la signature de l'arrangement particulier intervenu hier jeudi au Palais du Peuple. Le Phare rapporte qu'avant la cérémonie de cette signature, les différents délégués s'étaient d'abord réunis dans la salle de banquet du Palais du Peuple pendant environ 4 heures pour finaliser le document. Selon le journal, qui ne donne pas plus de précisions, au terme de ce travail de finalisation du texte signé jeudi, les dispositions sur la provenance du candidat Premier ministre et le mode de désignation du président du CNSA contenu dans l'accord issu du centre interdiocésain ont été modifiés. Le potentiel donne les précisions sur ces modifications et parle de la falsification du texte de l'arrangement particulier issu des discussions de la CINCO. À en croire le quotidien, les fonctions du Premier ministre et du président du CNSA ne sont plus, d'après le texte de l'arrangement particulier signé jeudi, une exclusivité du rassemblement comme gravé dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour le quotidien, la signature de ce texte revu vient de mettre dans une position inconfortable Bruno Tshibala et Joseph Olengankoy, car mis en ballotage par le critérium. Ils sont donc, conclut le quotidien, les grands perdants de leur trahison. Une analyse que ne partage pas la prospérité. La consoeur pense que la signature de l'arrangement particulier donne plutôt carte blanche à Bruno Tshibala pour former son gouvernement. L'Avenir, pour sa part, estime que la signature de l'arrangement particulier consacre l'échec de la appel à manifester de Moïse Katumbi. C'est une citation que je referme. Le journal renseigne en effet que l'ancien gouverneur avait publié au début du mois d'avril une déclaration dans laquelle il appelait les Congolais à manifester du 10 au 24 avril pour mettre un terme au pouvoir en place. Le quotidien est d'avis que cette incitation à l'insurrection a échoué. Parlons maintenant de la commémoration de la journée de l'avènement du multipartisme intervenu le lundi 24 avril dernier. Les journaux parus mardi 25 avril ont commenté le discours de Félix Tshisekedi prononcé lundi à l'occasion de cette commémoration. Le rassemblement reste disposé à rencontrer le président Kabila pour discuter des points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence du CNSA et la décrispation politique, rapporte le potentiel qui relaie les propos tenus par Félix Tshisekedi lors d'une adresse aux Congolais. Selon le quotidien, le président du rassemblement El Limité a souligné qu'il ne cautionnera aucune violation de l'accord de la Saint-Sylvestre sous quelque forme ou prétexte que ce soit. Le journal voit dans cette sortie médiatique du fils d'Étienne Tshisekedi la prise des marques du leader de la principale plateforme de l'opposition. Le Phare, pour sa part, parle plutôt d'un plan B que le rassemblement serait prêt à actionner. À en croire le quotidien, Félix Tshisekedi a, au cours de son adresse aux Congolais, promis, sans plus de détails, de donner incessamment un mot d'ordre au peuple congolais pour récupérer son pouvoir confisqué, avant de souligner qu'il appartient au peuple de préserver les acquis de la démocratie obtenue le 24 avril 1990 grâce au sang des martyrs, rapporte le journal.
Merci Berry Franklin Luchaka pour cette revue de presse. Claude Molichaud, vous êtes journaliste à la RTNC, coordonnateur des communicologues du troisième millénaire. Autre sujet qui a aussi fait l'actualité, c'est la CENI. Le président de cette institution a annoncé le début des opérations d'enrôlement dimanche 30 avril à Boutaï, Sirou, Kisangani, Kabinda, Kenge et Bandundu. Mais elle a aussi décidé de surseoir aux opérations d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Est-ce que c'est à cause de la situation sécuritaire qui s'est vue dans ces deux provinces?
Oui, vous êtes sans ignorer, madame, que l'espace Kasaï, c'est-à-dire Kasaï, la province du Kasaï, la province du Kasaï central et le Kasaï oriental connaît une situation trouble aujourd'hui, mais c'est en voie d'être réglé. Et on ne peut pas vraiment lancer des opérations d'une très grande envergure comme l'identification l'enrôlement des électeurs, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, quelques semaines, les kits électoraux ont été vandalisés, on a même tué certains agents de la CENI sur place. Donc il faudrait vraiment un minimum de sécurité pour qu'on puisse lancer ces opérations. Il y a même les élèves qui ne savent pas comment ils vont présenté ce lundi, ce mardi, la session préliminaire de l'examen d'état, la dissertation. Donc, il faut vraiment un minimum de sécurité pour que la CENI puisse lancer ses opérations d'identification de l'enrôlement des électeurs.
Peter Tiani, journaliste et directeur général du Vrai Journal. La décision de Corneille Nanga est fondée de surseoir aux opérations d'enrôlement dans les deux Kasaï.
J'ai une fois été invité ici à Radio Capi et j'ai défendu cette trilogie qui était la Cour constitutionnelle, la CENI et le gouvernement. C'est-à-dire la CENI est un bras séculier d'un plan qui veut que les choses tirent en longueur. Laissez-moi essayer de brosser un peu cet historique où tout le monde avait dit ici que nous ne pouvons pas revoir les élections parce qu'il y avait un problème de l'Est, souvenez-vous. C'est pour ça que la Constitution a été foulée aux pieds, parce que dans son article 73, il stipulait que les élections devaient être organisées 90 jours avant la fin du mandat. Je doute et je ne pense pas que ceux qui ont voulu ne pas organiser les élections l'ont fait pour avoir une année. La preuve y est. Quand on est engagé de nous donner un calendrier électoral, lorsque le chef de l'État s'est adressé devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunion en congrès, il a dit que les élections vont bel et bien être organisées. Nous aurions bien voulu qu'il nous dise en rapport avec l'accord de la Saint-Sylvestre qui venait d'ailleurs d'être foulé au pied hier, mais ça va être organisé selon le calendrier de la CENI. Nanga doit nous donner ce calendrier. Ce qu'il a à faire aujourd'hui, c'est d'éviter...
Le calendrier va venir après la signature de l'accord, de l'arrangement particulier.
C'est d'éviter toute élucubration qu'il est en train de faire. Qu'il nous dise, qu'il nous donne un calendrier. Nanga nous a dit qu'il fallait 16 mois pour organiser les élections. Nous étions en 2015, en janvier. En 2016. En janvier. Il nous avait parlé de 16 mois. Ça veut dire qu'on sous-entend que mai-juin, on devait avoir des élections. Je me pose la question aujourd'hui, quand Nanga voit ces images de 16 mois, il en dit quoi aujourd'hui? Donc, il ne peut pas se permettre aujourd'hui de nous dire. Il ne faudrait pas entendre ce que Nanga dit. Il faudrait comprendre entre les lignes. Quand il dit qu'il ne peut pas enrôler ceux du Kasaï, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Que si cette insécurité persiste et qu'on n'enrôle pas ces gens, on ne peut pas aller aux élections avec une partie qui n'est pas enrôlée. C'est ça le message. Et deuxièmement, à moins que j'ai mal lu, je dois avoir lu dans un article d'un confrère où il projetait les élections législatives pour 2018. Je suis en train de me poser la question de savoir, s'il nous parle des élections en 2018, c'est sur base de quel accord? Je ne veux pas ici lui prêter des intentions. Je vais lui demander, peut-être pour une dernière fois, pour que je puisse lui accorder ce bénéfice de doute, qu'il publie le calendrier électoral. Les gens n'ont pas besoin d'entendre tout ce que Nang est en train de raconter. Les gens veulent savoir c'est quoi le calendrier électoral. J'entends les gens de la majorité dire cap vers les élections. Cap vers les élections avec quel calendrier électoral.
Jeff Mwingab, vous intervenez depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Vous êtes éditeur du journal Le Fédéral. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga?
Merci beaucoup Kelly. L'actualité qui prédomine ici chez nous jusque-là, c'est particulièrement la motion de censure qui a emporté le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda et le remplacement par le gouverneur ad intérim, Monsieur Pandeka Popo. C'est ce qui prédomine comme actualité, parce que dans cette histoire de la motion de censure, en fait, il y a deux camps. Il y a un camp qui estime que la procédure n'a pas été respectée, et jusqu'à ce jour, semble-t-il que Monsieur le gouverneur, l'ex-gouverneur Kazembe, n'a pas encore déposé sa démission dans le 24 heures qui suivait sa déchéance. Et il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de qui disent tantôt il est en résidence surveillée, tantôt qu'il a été arrêté.
Vous ne savez pas où il se trouve en ce moment, donc.
Non, l'opinion n'est pas bien fixée, parce que les institutions en place qui devaient fixer l'opinion ne le disent pas, et vous sentez que tout le monde évite et esquive la presse pour éclairer leur interne de l'opinion. Alors son remplaçant qui est venu, quand on lit la lettre qui les nomme, on dit c'est jusqu'à nouvel ordre, ce qui signifie que ce n'est pas de sitôt que légalement on va organiser les élections du remplacement du partant. Donc on risque encore de rester le plus longtemps possible avec un gouverneur ad intérim, avec un gouvernement qui est pour les uns réputé démissionnaire, pour d'autres démissionnaire. Bon, on joue sur des termes comme ça. Voilà un peu ce qui prédomine l'actualité ici dans le Grand Katanga et particulièrement à Lubumbashi.
Merci Jeff Mwingamb. Premier thème de ce soir, signature hier jeudi au Palais du Peuple à Kinshasa de l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre. Parmi les grands absents à cette cérémonie, on a noté le rassemblement présidé par Félix Tshisekedi, le MLC et la SANCO. La majorité présidentielle, l'opposition et la société civile participantes au dialogue de la Cité de l'Union africaine sont parmi ceux qui ont apposé leur signature au bas de ce document. Michel Kifinda pour le reportage.
À l'exception du rassemblement conduit par Félix Tshisekedi, du Front pour la République de F. Bazaïba et de la société civile non signataire de l'accord du 18 octobre, tous les délégués des partis politiques au dialogue sous l'égide de la SANCO ont signé l'arrangement particulier. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple, devant députés, sénateurs, membres du gouvernement et autres autorités judiciaires, sécuritaires et diplomatiques. Le contenu de ce document n'a pas beaucoup changé par rapport à celui élaboré au niveau de la SANCO. Seuls les deux points de divergence ont fait l'objet des discussions au cours de la plénière qui a précédé la signature de ce document. À en croire le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, il s'est agi simplement de trouver le consensus sur les 2% des 98 autres déjà trouvés par les évêques, conformément à la recommandation du président de la République. D'après le contenu de cet arrangement particulier lu par Jean-Lucien Boussa, la primature revient bel et bien au rassemblement et le Premier ministre étant déjà nommé conformément à l'accord du 31 décembre.
Claude Molichaud, quel sens donner à la signature de l'arrangement particulier sans le rassemblement de Félix Tshisekedi, sans la présence du MLC et de la SANCO?
Voilà, d'abord, je commencerai à apprécier l'action. L'acte, c'est vraiment c'était un acte républicain, parce que, vous vous souvenez, logiquement, il ne restait que 2% sur le travail mené par les évêques, la mission des bons offices confiée aux évêques de la SANCO. Il ne restait que 2%. Ces 2%, on a vu la réunion qui a précédé la cérémonie de signature, on a réglé cette question-là, parce que le Premier ministre a déjà été nommé, qui vient du rassemblement, notamment l'UDPS, d'ailleurs, qui est le parti phare du rassemblement.
Monsieur Bruno, tu vas là. Il a été exclu de l'UDPS.
Non,
Monsieur
ça c'est Tshibala. Une cuisine interne, personne ne peut nous prouver le contraire ici, que Tshibala est de la majorité, non. Bruno Tshibala est bel et bien de l'opposition UDPS. Et depuis tout ce temps, il n'a jamais changé même de parti politique. Jusqu'à aujourd'hui, il se réclame de l'UDPS. Et il signe comme secrétaire national de l'UDPS. Ça, c'est clair et c'est bien précis. Donc, on a noté que Tshibala vient de l'UDPS et du Rassemblement, et le Premier ministre qui a été nommé, conformément à l'accord, et il est resté à la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord. Et c'est cette question qui a été débattue hier et on a trouvé un compromis. Et même les critériums du membre du gouvernement et les membres qui vont animer cette structure-là, qui va travailler en accord avec les gouvernements et la CENI pour amener les peuples congolais aux élections. Ici, il faut préciser encore une chose, Madame Kelly, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Parce que c'est aussi dans l'accord du 31 décembre 2016, on doit renouveler, c'est ce qui a été dit dans l'accord, on doit renouveler le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Les animateurs qui sont là, à la tête du CESAC, sont déjà fait un mandat, et les négociateurs au niveau de la CENCO ont pris la ferme résolution de renouveler les CESAC, et c'est ce qui sera fait, et ce sont les deux chambres du Parlement qui vont s'en occuper conformément à l'accord du 31 décembre 2016. On a tenu à ce que la CENCO soit là, ou les évêques de la CENCO soient là. Bon, on ne sait pas pour quelles raisons, alors qu'ils avaient bel et bien remis leurs conclusions de la mission des bons offices auprès du chef de l'État. Ils sont conscients qu'il ne restait que ces 2%, mais pourquoi sont-ils pas là? Ils n'ont pas reçu l'invitation, ou soit ils ont boudé la cérémonie.
Ils ont reçu l'invitation quand même assez tard, la nuit.
Bon, je ne sais pas, peut-être ils vont se prononcer
selon
par
la
après.
Cinco.
Ils vont se prononcer par après. Mais pour ce qui concerne les acteurs politiques, et notamment les katumbistes pilotés par Félix Tshisekedi, on a laissé une ouverture, ils peuvent venir signer quand ils veulent, et même l'MLC a dit qu'ils
viendraient signer. Mais le rassemblement de l'IMETE avait annoncé être prêt à finaliser l'arrangement particulier avec le chef de l'État. C'était, ils ont annoncé ça le lundi, mais pourquoi on s'est précipité à organiser la signature de cet arrangement particulier?
Pourquoi s'est réveillé trop tard comme ça? Pendant qu'on appelait tout le monde, lorsque le chef de l'État consultait, on leur a lancé l'invitation, mais ils ont boudé. Pourquoi? Et après, on a nommé le Premier ministre, et ils viennent se ressaisir pour dire que non, nous sommes prêts maintenant de rencontrer le chef de l'État. Ça, c'est non. Il faut un minimum d'humilité, de modestie dans les chefs de nos amis de l'IMETE, parce qu'un acteur politique doit être responsable. Vous pensez que vraiment, Félix Tshisekedi n'a jamais rencontré Joseph Kabila Kabange, même hors caméra? Donc, on veut tromper qui ici? Vraiment, on veut flouer qui? Peut-être ceux qui ne sont pas informés, mais nous, les journalistes, nous sommes l'éclairer de la société. Nous devons éclairer la lanterne du public, du grand public. Et c'est ce que nous faisons maintenant aujourd'hui. Pensez-vous que Félix Tshisekedi n'a jamais rencontré Joseph Kabila Kabange sur les questions d'ordre politique? C'est de la poudre aux yeux. Je pense que Félix Tshisekedi doit être humble et modeste et essayer un peu de se comporter en adulte.
Merci Claude Molichot-Peter Tiani. Quelle lecture vous faites de la signature de l'arrangement particulier hier au Palais du Peuple?
Mon pays est mort. Il faut le ressusciter. Notre avenir est en ballottage. Si les gens sont en mesure de jouer avec notre avenir, nous devons empêcher à ce genre de jouer avec l'avenir de nos enfants. Il y a eu un accord qui a été signé à la cité de l'OUA. Vital Kamerhe a crédibilisé cet accord avec Kodjo. Il y a eu un gouvernement avec Samy. Et on constatait que cet accord n'avait pas d'inclusivité. Le chef de l'État a demandé aux évêques de travailler pour qu'il y ait de l'inclusivité. Les gens se sont rencontrés hier et ont signé. Les gens qui ont signé, c'est les gens qui avaient signé à la cité de l'OUA. Plus Lisanga Bonganga et Joseph Olengankoy, ajouté Bruno Tshibala. L'inclusivité qu'on avait cherchée, c'est ça? Si oui, alors Joseph Kabila a atteint sa mission d'inclusivité. Nous sommes dans un pays où on nous apprend et on nous explique des choses que nous avons tous étudiées à l'école. Des gens sont allés à la cour constitutionnel pour interpréter la langue française, l'article 70 de la Constitution. Le mandat est de 5 ans une fois renouvelable. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection du l'installation du président élu. On est allé nous dire c'est jusqu'à l'installation du président à élire. Jusqu'aujourd'hui, on attend cette élection. Ces mêmes personnes sont allées à l'accord de la Saint-Sylvestre. Souvenez-vous, madame, signature, nous avons signé sous réserve. Après avoir signé sous réserve, nous avons besoin d'inclusivité. Le MLC, le Front avec Bazaï Baïtou finissent par signer. Et puis après, c'est le ministère de souveraineté. Et puis après, c'est le Premier ministre. Mais ce qui a été signé hier, avec l'accord, mais c'est deux documents différents. J'ai lu ce
en
document.
Quoi c'est différent?
J'ai lu ce document. On a quand même le temps de lire. Écoutez ce que ça dit. Page 8, article 4 du Premier ministre. La désignation du Premier ministre doit obéir aux principes ci-dessous. A. le Premier ministre doit être issu de l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 bar rassemblement. Il est dit où de l'accord? L'accord dit l'opposition non signataire bar rassemblement présente le Premier ministre. Il n'est pas issu. Lorsqu'on présente, obligatoirement la personne est issue. Mais on peut être issu sans être présenté. Nous parlons français. Ça veut dire on a modifié
le texte de l'arrangement.
Il se peut que j'ai fait de mauvaises études. C'est probable. Moi, j'ai étudié chez les catholiques. Le Premier ministre est issu de l'opposition non signataire bar rassemblement. L'accord de la Saint-Sylvestre signé n'avait pas dit ça. L'accord avait dit l'opposition signataire non signataire bar rassemblement présente le candidat Premier ministre. Deuxième élément, je veux lire le point D. Toujours nous sommes de l'article 4. Le choix du Premier ministre doit être respectueux des critères définis à l'article 6 ci-dessous relatifs au profit du Premier ministre et opéré sur base de la pluralité des candidatures présentées par le rassemblement. Pluralité de candidatures. Mais le rassemblement parlait d'une personne. Les autres ont parlé de trois personnes. Ça veut dire c'est l'entorse qu'il y avait. Ça ne marchait pas à cause de ça. Bon, lorsque vous allez signer sur base de la pluralité, vous avez trouvé ce point de ce juste milieu avec qui?
Avec les rassemblements qui
avec
étaient présents.
Avec quel rassemblement?
Le rassemblement est le Ngankoy, et parce qu'il y a eu une plénière avant la signature de l'arrangement particulier.
Dans un pays sérieux, nos enfants nous suivent. Pour les Ngankoy, dans notre pays, il a fait quoi? Si on doit tracer l'histoire, nous, en tant que journalistes, même de la geste, je doute même fort que l'Ngankoy peut avoir un poste de responsabilité que Kabila peut lui donner. L'Ngankoy, sur base de son cursus, quand il a été ministre de transport dans ce pays, quel est son bilan? On peut parler? Roger Lumbala, il a quel bilan?
Ne pas signer cet arrangement particulier, alors, est-ce que ce n'est pas préjudicier la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016?
Les évêques ont été foulés aux pieds, leur bonne foi trahie. Je me mets à la place de ces évêques qui ont mouillé leur soutane. On a utilisé les évêques pour passer le 19 décembre. On est passé le 19 décembre et on se dit maintenant qu'on peut... On nomme d'abord Bruno Tshibala qui a été exclu du rassemblement. Et puis on fait signer des arrangements particuliers par 17 personnes. Bataïba a même parlé, il a refusé, il a dit que c'est 32 personnes qui ont signé. Et la SENCO qui a organisé tout ça, mandatée par le chef de l'État. Cette SENCO, vous l'avez mis de côté, vous lui envoyez l'invitation à 22h, 21h, d'une cérémonie de ce genre. La SENCO qui organisait ces assises n'était pas là.
Merci.
Et non seulement la SENCO n'était pas là, mais les personnes qui organisaient, qui représentaient le chef de l'État. Le chef de l'État était une partie en conflit. Obem Inako était du côté de la majorité. Kemo était du côté de l'opposition républicaine. Vous prenez des gens qui étaient partis au conflit, ces gens-là viennent maintenant comme eux qui commencent à organiser
merci
les structures.
Merci Peter.
Nous sommes où?
Merci
nous
Peter Kelly. Jeff Mwingambo, quelle est votre lecture à vous par rapport à la signature de l'arrangement particulier sans le rassemblement de Félix Tshisekedi, sans la SENCO et sans le MLC?
Oui, merci Kelly. Je suivis religieusement les confrères là au studio. En fait, c'est vrai que moi personnellement aussi je suis très inquiet de la cérémonie d'hier. Très inquiet parce que ça augure encore un futur qui ne va pas être très très bon pour notre pays. Nous assistons à deux antipodes, dont la majorité d'un côté qui est tout le temps dans la précipitation et dans les dribblings, et lesquelles précipitations nous amènent à croire que on nous pousse, on pousse le pays vers la logique de l'accord de l'Union, de la cité de l'Union africaine, c'est-à-dire les élections vers 2018. C'est cela la logique, parce que quand vous regardez aujourd'hui ce qui s'est fait avec la décision, par exemple, de M. Nanga à suspendre l'enrôlement, les opérations d'enrôlement dans les certaines provinces du Kasaï, c'est déjà problématique. Ça signifie que tout est déjà mis en marche pour que, en fait, qu'on aille toujours vers 2018. Même vers 2018, ça risque d'être encore hypothétique parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous réserve encore, quelles recettes on nous réserve encore du côté de la majorité. Mais de l'autre côté aussi, nous avons l'opposition, particulièrement l'aile délimitée là. Cette rigidité aussi là, quand même, à un certain moment, en politique, on ne fait pas de la politique avec beaucoup de rigidité. Dans la politique, il faut savoir prendre aussi l'adversaire au mot, il faut savoir aussi jouer avec le temps. Mais cette rigidité aussi et la tergiversation qu'il y a tout le temps dans les camps de nos amis du RASOP là-bas, à un certain moment on s'est dit finalement ils jouent les jeux du pouvoir, il y a des intérêts peut-être cachés et l'opinion ignore. Parce qu'au jour le jour, on nous dit toujours on a débauché. Tout cela qui hier était des enfants terribles, qu'on a apprécié dans l'opposition, les Olengankoy et autres, les Tshibala. Mais aujourd'hui, j'entends même le confrère Peter là-bas qui dit qu'est-ce que Olengankoy a fait. Mais hier, quand il était dans les RASOP, c'était un enfant terrible. Et Tshibala, c'était parmi les plus radicaux autour de Étienne Tshisekedi, que son âme repose en paix. Mais aujourd'hui, quand il bascule, bon, je sens un aveu d'impuissance dans le chef des opposants de croire que les débauchages politiques, hein, partout ailleurs, les pouvoirs font tout pour fragiliser l'opposition, mais pourquoi l'opposition ne peut pas aussi faire le contraire pour affaiblir ses pouvoirs en tirant aussi quelques éléments forts du pouvoir vers l'opposition. Donc, la signature d'hier, c'est vraiment pour moi très inquiétant dans la mesure où l'absence effectivement du RASOP, l'absence de la CENCO et du médecin, ce ne sont pas des morceaux faciles. Et je pense on aurait pu encore peut-être attendre que les RASOP, comme ils ont dit qu'ils veulent rencontrer le chef de l'État, qu'ils les rencontrent. Et ce serait pas mal. C'est un problème de la nation. Ce n'est pas un problème de ces individus. Les individus passent, mais les institutions, le pays reste. La signature d'hier là, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose.
Vous estimez que la crise va perdurer, va continuer.
Qu'on a versé sur le feu.
Voilà. Allez. Donc vous pensez que la crise va continuer. On n'est pas sorti.
Moi, en tout cas, je pense que oui, la crise va continuer.
Claude Moulicho, les deux présidents du Parlement avaient-ils qualité, eux qui ont participé aux négociations, de convoquer les parties prenantes à ces négociations pour signer l'arrangement particulier?
Madame, ici, il faut suivre la logique des choses. Les deux présidents des deux chambres du Parlement, Léon Kengwadondo et Obe Minaku, ont reçu mandat du chef de l'État. Lorsque la CENCO arrive à la fin...
C'est logique.
Oui, c'est logique. Parce que je suis en train d'expliquer. Lorsque la CENCO arrive à la fin de sa mission de bons offices, la CENCO, les évêques sont allés remettre les rapports auprès du chef de l'État. Donc, en demandant au chef de l'État, à sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, garant de la nation, de trouver une solution pour régler les 2% qui sont restés. Et le chef de l'État a commencé les consultations et jusqu'à arriver à nommer le premier ministre Bruno Tshibala. C'est dans le cadre de cet accord du 31 décembre 2016. Et comme c'est lui qui est garant du bon fonctionnement des institutions, il a confié ce mandat à ces deux présidents des deux chambres du Parlement de présider cette cérémonie qui, conformément à l'article 69 de la Constitution. Parce que le chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et c'est en cette qualité-là que les présidents des deux chambres du Parlement ont reçu le mandat du chef et ils ont présidé cette cérémonie. Donc c'est logique. Ils ont qualité. Et Kengwadondo l'a bien spécifié que ce n'était pas dans le cadre des missions traditionnelles de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est-à-dire légiférer ou contrôler l'action des institutions publiques ou gouvernements ou entreprises publiques, ou soit ce n'était pas un congrès comme on l'a vécu il y a quelques jours lorsque le chef de l'État intervenait devant les deux chambres réunies en congrès. Non, c'était sur le mandat du chef de l'État qu'ils ont mené cette action conformément à l'article 69 de la Constitution.
Alors, Peter a soulevé un point important quand même ici, la modification de certains articles dans l'arrangement particulier. Est-ce que ce n'est pas violer la Constitution,
Madame,
ou l'accord même?
On a modifié quoi?
Il a parce lu...
Jusqu'à preuve du contraire, Peter ne me dira pas que l'arrangement particulier a été signé. Non, c'est hier qu'on a signé l'arrangement particulier. Est-ce qu'avant-hier ou il y a une semaine, on avait déjà signé l'arrangement? Non. C'est l'accord qui a été signé le 31 décembre 2016. Et dans cet accord, il est stipulé clairement que le Premier ministre est issu de l'opposition bar rassemblement. C'est ce qui a été fait avec la nomination de Bruno Tshibala. On n'a pas changé quelque chose, sauf que le texte a été bien négocié avant la plénière, avant la cérémonie de signature, lors de la plénière, qui a réuni les acteurs principaux de ce cadre-là.
C'est-à-dire que c'est le texte qui a été présenté aux parties prenantes et le texte a été signé. C'est pas pour dire qu'il y a un texte qui existait bien avant. Et qui... Non. Dans ce texte, il est stipulé clairement que le nombre de membres du gouvernement, c'est 53, plus le premier ministre, 54. C'est clair, ça a été repris. Où est-ce qu'on a changé l'accord du 31 décembre? Moi, je pense que...
Alors, rapidement, Claude Mauricio, avec la signature de l'arrangement particulier, est-ce qu'on peut dire que les négociations ont abouti et que plus rien ne pourra empêcher l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre? Bref, réponse.
Moi, je pense que l'accord, l'application de l'accord, c'est un processus. Nous sommes en train d'y aller mollo. Il a été question qu'on nomme le premier ministre. Le premier ministre est déjà là, Bruno Tshibala. Il a été question... qu'on arrive à former le gouvernement, c'est ce qui est en train d'être fait. D'ici là, il y aura un gouvernement. Il était question qu'on renamise l'action de la CENI, c'est ce que le gouvernement
va faire.
Il était question également qu'on renouvelle le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Et c'est ça, c'est ce qui sera fait. Et l'objectif, c'est d'amener le peuple aux élections. Donc, il n'y a pas une entorse quelque part là, madame.
Peter Sani, il faut amener le peuple aux élections, il n'y a pas d'entorse.
Ceux qui avaient organisé, c'est pour parler, les évêques. On dit que la nomination de Bruno Tshibala était une entorse à l'accord. Ceux qui avaient organisé ces pourparlers, je les cite ici, les évêques, par l'entremise de l'abbé Cholet. Deuxième élément, Claude Mauricio a l'habitude de lire, je vais lui donner les documents. Conformément au point 3.3.3 de l'accord, le point 3.3.3 de l'accord dit...
Alors, il va aller lire, on ne va pas revenir sur ça.
Non, je l'ai en tête. Le point 3.3.3 de l'accord dit que l'opposition non signataire bas rassemblement présente le candidat Premier ministre. Les gens qui nous suivent peuvent vérifier. Mais ici, l'article 4 dit, dans son point A, le Premier ministre doit être issu de l'opposition. Est-ce que c'est la même phrase? Je me répète, est-ce que ce que je dis est faux? Deuxième élément, on dit, on va présenter le Premier ministre et son choix va être opéré sur base de la pluralité des candidatures présentées. Là-bas, on avait parlé, on présente le candidat. Ici, on parle de la pluralité des candidatures. Est-ce que... Voyez un peu ces éléments-là. Et puis, même si...
Alors, pour vous, Peter Tshani, vous pensez qu'on n'est pas sorti de l'auberge, donc la crise est encore là, elle va perdurer.
Non, mais dites-moi. Ça veut dire que le président de la République a besoin d'une autre crise qui va permettre qu'il y ait un autre dialogue. Parce que Bruno Tshibala est là. Il faut suivre mon face à Kanyeladi, non? Ton Zagimon comme mon acquis. Un meeting du secrétaire général du PPRD. Ton PCI et moi, 2-3 mois. Samy Badi Bangato, moi qui est aussi sous son nazo sur le bien, à cause au moins 2-3 mois après, on sait comment ça va fonctionner. C'est-à-dire jusqu'à arriver au mois d'octobre ou novembre, nommer maintenant quelqu'un sur base d'un autre accord et dire on amène maintenant aux élections. On veut tirer les choses en longueur.
Merci.
Mais ce qui est regrettable, c'est que.
Rapidement, Peter.
Quand Dieu dit non, ça arrive toujours dans la vie de toute personne. Il y a un moment où on a l'impression que nous maîtrisons tout, que nous. Nous avons frappé tout le monde et nous maîtrisons tous les systèmes. Et c'est en ce moment-là qu'on comprend que le plan de Dieu arrive sur les gens comme Mobutu, d'ailleurs,
merci
de triste mémoire.
Merci Peter Tshani, deuxième et dernier thème de ce soir, 24 avril 90, 24 avril 2017, 27 ans, depuis que le maréchal Mobutu avait décrété la fin du monopartisme et instauré le processus de démocratisation du pays. À ce jour, la RDC compte environ 500 partis regroupements politiques et dispose d'une constitution votée par référendum. Le pays a aussi connu deux cycles électoraux. Quel bilan dressé du processus de démocratisation en RDC 27 ans après son lancement, professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, reprend au micro de Berry Louchaka.
En termes de bilan, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu également beaucoup de reculs. Il y a eu la libéralisation de l'espace syndical. Vous savez que par le passé, on avait un seul syndicat. Et actuellement, les travailleurs ont beaucoup de syndicats. Et il y a également la libéralisation sur le plan de l'enseignement supérieur universitaire. On n'avait que 3 universités. Aujourd'hui, on a une pluralité d'universités. Mais là où on a fait des reculs, c'est qu'en fait, la libéralisation du savoir est accompagnée d'un très grand désordre. Je crois que on ne sait pas aujourd'hui combien d'universités il y a et qu'est-ce qui se passe réellement dans les universités. Quand vous regardez sur le plan politique, il y a eu l'avènement. Plusieurs partis politiques, plus de 400, qui rend véritablement le fonctionnement de la démocratie très difficile, mais depuis 90, nous n'avons eu que deux élections. Deux élections et il y a eu un référendum. Et ce qui est un bilan très maigre, là, il faut considérer que depuis que le processus a été lancé depuis 90, aujourd'hui on est en 2017, ça fait 27 ans, et donc nous n'avons eu que deux élections présidentielles et deux élections législatives. Ça, c'est un bilan très très maigre. En réalité, on aurait pu avoir cinq élections présidentielles, cinq élections législatives. Cela démontre que c'est une libéralisation à ce qui passe, qui rencontre énormément de difficultés, qui rencontre énormément de contraintes, et il faudra un jour qu'on se mette, qu'on se dise, mettons un bilan complet pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.
On vient de suivre là le professeur Félicien Kiabamba, chercheur au centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Il répondait au micro de Berry Luchaka. Nous sommes presque à la fin de l'émission. On va essayer d'être bref dans nos réactions. Jeff Mwingam, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Fédéral, paraissant à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Quel est le bilan que vous vous dressez du processus de démocratisation en RDC 27 ans après le discours du maréchal sur la fin du monopartisme?
Oui, merci Kelly. Un bilan mi-figue, mi-raisin. Comme le professeur l'a dit, il y a eu beaucoup d'avancées, mais il y a eu aussi beaucoup de reculs. Parce que avec qui dit multipartisme, qui dit libéralisation, démocratisation, cela implique aussi l'avènement ou la promotion de la liberté. Il y a eu beaucoup de libertés aussi, beaucoup de libertés d'association, d'opinion, de manifestation, mais et entaché de quelques tares, de quelques irrégularités qu'on constate par-ci par-là avec du côté de l'opposition comme du côté de la majorité pour ce qui est de la classe politique. Et quand on, par exemple, on constate qu'au niveau de la liberté de manifestation, il y a une politique de deux poids deux mesures, l'opposition est souvent empêchée. Bien sûr, on prête peut-être des intentions qu'ils ont toujours la tendance de casser les biens d'autrui et les biens publics. Et d'autre part, vous avez les pouvoirs, la majorité, qui est libre à faire leurs manifestations. Et au niveau, par exemple, de la presse, il y a quand même un foisonnement des organes de presse et les gens s'expriment, mais il y a aussi encore un peu aussi des pots de banane sur le parcours de la presse, tout le temps des interpellations, des enlèvements, pas plus que moins de deux semaines ici chez nous. Il y a un éditeur qui a été enlevé, kidnappé et puis arrêté. Donc voyez un peu, il y a aussi beaucoup de recul comme ça. Mais tout ça aussi est beaucoup plus lié à notre classe politique, moi je l'ai toujours dit. Parce que comment voulez-vous que dans un pays comme ça, avec plus de 500 partis politiques, et des partis politiques qui font des alliances souvent contre nature, et où vous avez par exemple des unitaristes qui font jonction avec les fédéralistes, et les sociodémocrates qui font jonction avec les socio-chrétiens. Bon, c'est vraiment du méli-mélo. Donc, nous assistons à une classe politique qui ne nous facilite pas vraiment l'avancée de la démocratisation dans notre pays. Merci. Dans tout le parti politique, opposition comme majorité, et les chefs de partis politiques sont pratiquement des empereurs, des rois qui sont indéboulonnables. Il n'y a que eux qui peuvent occuper des fonctions, il n'y a que eux qui peuvent être partout, et eux, on ne peut pas les remplacer. Autant, et ils condamnent l'adversaire en face, mais ce qu'ils condamnent, c'est ce qu'ils font. Bon, voilà, nous assistons un peu à ça. Donc, le bilan n'est pas très luisant. Oui.
Le bilan est mitigé pour vous. C'est qu'on retient Jeff Mwingamba.
Oui, il est vraiment mitigé pour moi, vraiment.
Peter Tiani, journaliste éditeur général du Vrai Journal. Bilan positif, négatif, mitigé.
Avec Mobutu, c'était la catastrophe, pour que j'essaie de me résumer. Le multipartisme n'a pas commencé en 90. Le multipartisme a commencé aux années 60. Il y avait plusieurs partis politiques. Pour 65, il y avait des gens qui avaient dit non. Quand Mobutu a voulu instaurer, quand il a pris le pouvoir par le coup d'État, c'est comme ça que même le André Guillaume Lubaya et les sept autres personnes ont été assassinées. Claudel Lebaye aujourd'hui tient le parti. C'est des gens dans l'imaginaire collectif, on doit le dire. Mobutu emmène la dictature en 90. On essaie un peu de dire non. Et comme Mosé vient, comme Mobutu s'est entêté, comme les choses se font aujourd'hui, Mosé vient avec les armes. Et Joseph Kabila prend une voie que son père n'avait pas prise pour emmener à San City. On va au référendum de cette constitution au prix de sang, 2006, élection 2011, élection. Et aujourd'hui, on rentre à la case de départ. Malheureusement, on rentre là où nous étions allés à San City. Fort malheureusement. Pourquoi ? Parce que c'est toujours cette idée de pouvoir s'accaparer le pouvoir. Par rapport aussi à ça, j'aimerais passer un message. Les gens ne doivent pas penser que le développement d'un pays passe par seulement les dirigeants ou les leaders politiques ou les Félix Tshisekedi et des consorts. Le développement de pays, c'est nous. C'est nos citoyens. Hier, par exemple, il y a les jeunes du mouvement citoyen Lucha y Leton qui ont fait la marche contre l'insalubrité à Kinshasa.
Ils ont été arrêtés.
Ils ont été arrêtés, tabassés. Cette insalubrité-là met en cause nous. Citoyens. Mais nous regardons nos amis, nos frères, nos enfants en train de se faire tabasser par la police parce qu'ils s'insurgent contre l'insalubrité de Kimbuta. Voilà. Et nous sommes comme si nous n'étions pas concernés. Nous sommes dans un pays où on va vous demander de payer des vignettes. Il n'y a plus de route à Kinshasa. Mais on va vous imposer de payer des vignettes et personne ne dit mot. Nous sommes en train de nous approcher de la bestialité. Il faudrait que les gens se réveillent, comprennent que ce pays ne pourra changer que si nous-mêmes nous prenons conscience de notre vie. Aujourd'hui, il est difficile, et je veux conclure par là, il est difficile, c'est vrai. Les gens sont déçus, c'est vrai. Mais vous devez savoir que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Restez fort, ouvrez les yeux,
merci.
Battez-vous pour votre
merci
pays.
Merci Peter Tiani. Claude Moulicho, un mot sur le bilan du processus de démocratisation en RDC 27 ans après.
Oui, moi je dirais que il faut resocialiser la classe politique congolaise. Et il faut placer les débats dans le contexte global. Parce que on ne peut pas parler des avancées démocratiques sans évoquer les soubresauts qu'a connu la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière. Et vous savez que le 24 avril 1990, Mobutu prononce son discours, quelques temps après, il y a eu pillage. Et les pillages ont été commandités de quelque part. Les gens disent que c'est Mobutu qui a organisé les pillages, c'est vrai, mais c'était des faits politiques. Il y a eu la guerre,
les génocides
rwandais, les génocides rwandais qui sont répercutés chez nous ici, au Congo. C'est un fait non négligeable dans l'avancement. Parce que l'essentiel de la démocratie, c'est quoi? C'est arriver au bien-être de la population, le développement. Et nous subissons certaines choses qui viennent du dehors, qui viennent de l'Occident ou des pays étrangers. Et chez nous ici, on est victime.
Alors le bilan, il est comment?
Le bilan n'est pas tellement... C'est mitigé. Et parce que les acteurs politiques ont une grande part de responsabilité. Il n'y a pas d'idéologie quelconque. Comme l'a dit mon confrère Lubumbashi, c'est aujourd'hui, j'ai faim, j'adhère à un parti politique parce que j'aurai quelque chose. Parce que mon frère est là, il va me pistonner. C'est comme ça. Mais nous devons resocialiser toute classe politique et viser l'essentiel. L'essentiel, c'est de quoi? Le développement. Le développement doit partir de la base.
Merci.
Et les gens doivent être organisés, comme a dit Moussé. Organisez-vous à partir de la base pour que le développement puisse se constater dès, au niveau de la base et jusqu'au niveau de...
Merci Claude Molichot, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.